ces chants qui commencent à dater un peu, hein, c'est ça hein.
Ouais, moi aussi.
Mais je crois qu'ils sont toujours d'actualité, hein, heureusement, hein, que Dieu est toujours bienveillant. C'est ça hein. Ok, merci. Je remercie aussi Jean-Philippe et Thomas, bien sûr, à la technique. Ce travail toujours dans la fidélité. Ce matin, je vous propose de poursuivre notre route dans l'Épître aux Galates. Jean-Philippe, si tu veux bien mettre la première. L'Épître aux Galates. Alors, c'est un livre un peu, voilà, qui a son poids dans la parole de Dieu, évidemment, mais aussi dans l'histoire de l'Église. Beaucoup pensent que c'est quelque part la grande charte de l'Église. Il paraît même que Luther, lorsqu'il a rédigé son commentaire sur l'Épître aux Galates, c'est là qu'il aurait posé les premiers fondements de la grande réforme du XVIe siècle. On reparlera tout à l'heure de Luther, c'est quand même quelqu'un que l'on connaît bien ici, dans la région. Ça, et je pense que c'est important de se rappeler de ces grands personnages aussi. Sébastien en a parlé au chapitre 1. Il a fait une introduction également, et ce matin, on va essayer de parcourir le chapitre 2, et j'ai tiré en gros trois notions qui m'ont paru, enfin qui m'ont sauté aux yeux. Si vous voulez vraiment parcourir l'Épître aux Galates, bien sûr, mais vous avez aussi un très bon commentaire de John Stott, et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. C'était un grand observateur de la nature et puis bien sûr un grand théologien qui nous a quittés. Et ce livre s'appelle « Appelé à la liberté ». C'est un très bon commentaire qui m'a fait du bien aussi. Donc en défendant son ministère, l'apôtre Paul défend avant tout un message libérateur de la grâce. On peut se rappeler que sur le chemin de Damas, Saul a pu mesurer la profondeur et la beauté de ce message. Alors pour bien comprendre en fait ce texte, il faut se rappeler un peu les déroulements qui suivent, se souvenir aussi de ce danger très fort d'éclatement qui menaçait les premières communautés chrétiennes en Galatie. Poussé par l'Esprit de Dieu, Paul avait annoncé un message de liberté par rapport au carcan légaliste de l'époque. Et tous ces efforts, quelque part, pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, risquaient d'être chamboulés, peut-être même fragilisés, voire même anéantis, on ne sait pas, à cause de quelques personnes, des détracteurs, on en parlera tout à l'heure, qui venaient de Jérusalem pour annoncer qu'il fallait conserver des exigences, notamment la fameuse circoncision. Donc le débat entre la loi et la grâce risquait de mettre en péril le développement, quelque part même, de la foi chrétienne en Galatie et puis même, peut-être même jusque chez nous, chez les gentils de Brumath. Nous sommes appelés les gentils. Donc un premier passage, alors c'est vraiment petit là, j'aurais du mal à le lire. Ouh, ok. Derrière moi. Tu veux pas le lire Thierry là?
Je suis pas le meilleur
candidat,
mais je
peux aussi. Ouais, Cathy, voilà aussi. Ouais, si tu veux, ouais. Super. Ouais.
14 ans plus tard, je suis remontée à Jérusalem en compagnie de Barnabas. J'avais aussi emmené Tite avec moi. J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. J'y ai exposé l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs. Je l'ai exposé dans un entretien particulier aux dirigeants les plus considérés, car je ne voulais pas que tout mon travail passé et futur soit compromis. Or, Tite, mon compagnon, était d'origine païenne. Eh bien, on ne l'a même pas obligé à se soumettre au rite de la circoncision. Et cela, malgré la pression de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissons dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves. Mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quelle a été, à cet égard, l'attitude des dirigeants les plus influents ? En fait, ce qu'ils étaient alors m'importe peu, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Eh bien, ces gens très influents ne m'ont pas imposé d'autres directives. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'Évangile aux non-juifs, comme à Pierre, celle de l'annoncer aux Juifs. Car celui qui a agi en Pierre pour qu'il soit l'apôtre des Juifs a aussi agi en moi pour que je sois celui des non-juifs. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main, à Barnabas et à moi, en signe d'accord et de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis qu'eux se consacreraient aux Juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Tu vas continuer ?
Non, non, c'est bon. Ah. Merci beaucoup. Super. Quoi, on a vraiment besoin les uns des autres. Donc, une première thématique que j'ai appelée révélation. Une révélation pour Paul. Son obéissance. Et puis, l'unité qu'on voit quand même à la fin de ce texte entre les apôtres. Alors, il y a beaucoup d'histoires ici. Si on regarde un peu la chronologie des événements, l'apôtre Paul a entrepris un premier voyage d'évangélisation en Galatie. Pour ceux qui étaient en Turquie une fois, la Galatie, en gros, c'est au sud-ouest de la Cappadoce. Donc, Cappadoce, c'est vraiment un des coins touristiques parcourus par beaucoup d'agences. Et donc, j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est vraiment magnifique. Et donc, la Galatie, c'est plutôt à l'ouest, sud-ouest. Il y a prêché pendant 3 ans sans en référer quelque part aux instances de Jérusalem. Après ces 3 ans, il est venu faire la connaissance de Pierre et puis aussi de Jacques le Juste. On l'appelait Jacques le Juste. Puis Paul est reparti pour porter l'évangile loin des terres de Judée pendant 14 ans, avant de revenir rendre son témoignage aux apôtres les plus influents, comme c'est marqué ici dans ce texte. Donc pendant ce temps relativement long, il a eu vraiment à cœur de faire progresser la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié, mort pour nos péchés, pour ses péchés. Et puis on le voit ici, il va revenir à Jérusalem. Alors pour quelle raison? En fait, on a l'éclairage dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres. Un texte, je vais simplement lire les 2 premiers versets, c'est assez dense, ce chapitre 15. On l'appelle ça aussi, c'est là où il y a eu lieu le premier concile de Jérusalem. Il y a eu de la tension à ce moment-là, et je vous lis versets 1 et 2 du chapitre 15. « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns dès l'heure monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. On peut dire que 17 ans après la prédication de Paul en terre païenne, beaucoup de choses n'étaient pas encore réglées, résolues sur ce sujet pourtant très important. L'enseignement des Judéens, selon lequel la circoncision devait être toujours une condition de salut, est vraiment contraire à la conviction de l'apôtre, on le voit ici très fortement, et pour lui, cette situation ne pouvait pas durer. Donc on voit les frères qui décident de s'en remettre à l'avis du collège apostolique de Jérusalem, ils mandatent Barnabas, quelques frères pour accompagner Paul, et dans sa lettre aux Galates, dit, et ça c'est important, que c'est pour obéir à une révélation divine qu'il monte à Jérusalem. Il n'a pas été convoqué par le collège apostolique, Paul, il faut que tu reviennes, il y a un truc qui ne va pas du tout là. En fait, c'est vraiment pour répondre à une révélation de Dieu, quoi, qu'il y va. Et il prend avec lui Tite, un grec converti, auquel on n'a pas imposé la circoncision. On peut dire que l'apôtre est déterminé. Il a envie d'en finir avec quelque part ce frein, on pourrait même appeler ça un mal qui ronge les nouvelles communautés chrétiennes. Paul est conscient de la révélation qu'il a eue. Il se rappelle très bien ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Vous vous en souvenez également. Et il tient ici à rencontrer les responsables de Jérusalem, des frères compétents, pour juger quelque part si l'apôtre, suivant son expression, n'a pas couru en vain. Vous vous rappelez ça ? Philippiens 2, verset 16. Il n'a pas envie de courir en vain. Hein. Et voilà, il va aller voir ses frères pour lui poser cette question. Est-ce que j'ai vraiment couru en vain ? On s'apercevra plus tard que ce n'est pas le cas. Au premier rang des personnalités les plus considérées, bien sûr, il y avait les apôtres, tous ceux qui ont accompagné le Seigneur Jésus-Christ durant ces 3 années de ministère. Paul mentionne aussi, alors là, il a une idée un petit peu de l'ambiance un peu particulière qui régnait dans certaines communautés, une ambiance un peu plombée hein, par ce que Paul appelle des faux frères. Et Paul tient à crever l'abcès, il est précis, clair et même percutant. Les faux frères n'agissent pas ouvertement, ils se sont glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire en servitude. C'est très fort, hein, verset 4. On voit des espèces d'espions comme ça qui sont là. On s'aperçoit que quelque part, Paul avait des détracteurs durant une bonne partie, même peut-être tout son ministère, des gens qui regardaient ce qui se passait, quoi. C'était assez, ça devait être assez pesant pour lui, entre parenthèses. Alors, je ne sais pas quelle image vous avez, vous, des églises premières. Alors, bien sûr, on a les Actes des Apôtres qui en parlent beaucoup. On a une image, enfin, moi, j'ai eu des images un peu idylliques de ce qui se passait dans les églises. C'était quand même mieux avant, vous voyez ce que je veux dire. Et on s'aperçoit que ce n'était pas toujours le cas, hein, qu'il y avait des fois, de l'ambiance, voire même du rififi. Donc, Freyr, Spesserkevan, ce n'est pas toujours le cas pour ceux qui parlent alsacien. Ça, c'était, voilà, autrement dit, avant, c'était mieux, quoi. Voilà, l'être humain est ce qu'il est. Et là, on voit vraiment qu'il y avait des espions, des gens qui cherchaient à trouver, à plomber l'ambiance, et puis même à introduire une doctrine supplémentaire. Et Sébastien en a parlé à plusieurs reprises. Un débat très vif, nous le constatons en défendant la vérité de l'Évangile, Paul défend aussi et avec ardeur et détermination son propre ministère. Sa volonté de clarification est intacte. Il faut la mettre aussi en parallèle avec la révélation que Dieu lui a envoyée. Une révélation directe du Seigneur Jésus-Christ. Et le danger que couraient aussi ces premières communautés, notamment en Galatie, mais même ailleurs. Et Paul veut montrer que le problème, le vrai problème, ce n'est pas une question de personne. Paul rappelle aussi ici, dans ce texte, que Dieu n'a pas de chouchou parmi les apôtres. Un super apôtre, puis un apôtre un peu deuxième classe, parce qu'il n'a pas été, durant le ministère de Jésus, il ne l'a pas accompagné. Il y a différents ministères, mais un seul et même message. Paul n'est en compétition avec personne, ni avec Pierre, ni avec un autre apôtre. C'est vrai qu'on voit ici que Pierre est mandaté plutôt pour l'évangélisation parmi les circoncis, et Paul a plutôt été choisi par le Seigneur pour aller vers les saints circoncis. Différents ministères, mais un même Seigneur. Ça aussi, ça doit nous parler. C'est le message qui compte quelque part. Ce n'est pas vraiment les messagers. Paul tient aussi ici à montrer aussi que cette unité qui est présente. On le voit ici à la fin du texte. L'action divine, elle est présente entre les apôtres. Et il nous parle du don de la main d'association qui lui a finalement été accordée parmi les autres apôtres. La main d'association. ils se sont quittés avec cette main d'association. Donc une unité qui était présente. Malgré la tension, l'unité, elle était là. Deuxième point, Jean-Philippe, j'ai noté conviction et hardiesse. Ah, je vais le lire. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé, s'est tenu à l'écart, parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis aussi à cacher leur véritable conviction. Au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par la dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, « Toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme les juifs ?» Petite tension. Paul va rappeler un incident, on peut l'appeler regrettable, qui a eu lieu après ce fameux premier concile de Jérusalem. L'incident se produit à Antioche, en Syrie, et on voit ici Pierre, qui vient de Jérusalem, rencontrer Paul. Que s'est-il passé? En fait, Pierre est venu constater quelque part le succès, le message de libération du Christ en terre païenne. Il y rencontre les frères qui n'étaient pas d'origine juive et puis il mange avec eux, pas de souci. Mais quand survint de Jérusalem des juifs convertis, l'attitude de Pierre va changer brusquement. Il va se démarquer de ces chrétiens incirconcis par peur des partisans intransigeants de la circoncision. Pour l'apôtre Paul, cette duplicité, cette double position, un petit peu hypocrite aussi, il faut le dire, n'est pas acceptable. On se rappelle aussi que Pierre a eu cette vision chez Corneille, l'officier romain. Vous vous rappelez cette nappe qui descend avec des animaux, une vision très, très particulière que le Seigneur va lui donner. Il connaît cela. Il lui indique clairement que le message est un message universel de grâce, qui est pour les Juifs, mais aussi pour tous, chaque être humain est destinataire du message de la grâce. Pierre se rappelle de cela. Mais ici, il va avoir une attitude un peu particulière et Paul va lui rappeler un petit peu d'une manière assez forte, on peut le dire. Et le problème, c'est que même Barnabas, pourtant fidèle compagnon de Paul, est entraîné quelque part dans cette hypocrisie. Même Barnabas. Verset 13. Paul perçoit ici l'attitude de Pierre comme une espèce de petite trahison, petite ou grande, je ne sais pas. Il emploie des mots forts, verset 11, « Il avait tort, car il avait tort. » Il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, verset 14. Alors, on peut se dire pourquoi Paul se sent-il obligé de reprendre Pierre publiquement ? Il aurait pu le faire en privé, on dirait « Écoute, on va discuter dehors, là-bas. » Ben, il l'a fait devant tout le monde, quoi. C'était assez. Pourquoi il fait cela? Alors il y a plusieurs explications possibles. Le concile de Jérusalem était tout récent. Il avait abordé cette question, mais en fait, la solution n'était pas vraiment trouvée. On voit ici qu'il y avait encore un chemin à parcourir. On s'était rendu à quelque chose, à un minima. Et pourtant, Pierre était d'accord pour dire que Dieu ne faisait aucune différence entre païens et juifs convertis. On voit ça dans Actes 15, versets 7 à 11. Son attitude pour Paul devenait quelque part incompréhensible. En plus, on va dire que le ministère de Paul était un petit peu sapé à la base. Même son plus proche collaborateur, Barnabas, a été pris quelque part dans le filet. Et puis, bien sûr, l'attitude de Pierre va à contresens des révélations que Paul avait reçu directement du Seigneur. Fallait-il suivre un homme ou suivre Dieu? L'attitude de Pierre nous montre en tout cas qu'il y avait bien plusieurs courants, notamment deux très forts courants de pensée, qui allaient être en conflit. Et puis ce danger d'un schisme ou d'une séparation était quand même très très fort et réel. Les deux attitudes, les deux positions n'étaient plus conciliables. Soit le salut était la récompense accordée aux œuvres humaines, soit le salut dépendait intégralement de la grâce de Dieu, indépendamment de toutes nos actions, de tous nos mérites, de tous nos diplômes et autres médailles. En deux mots, pour Paul, le choix était simple, soit la servitude, soit la liberté. C'est pour ça qu'il y a eu cette explication, on va dire, un peu franche. Le cœur de Paul était rempli de l'amour du Fils de Dieu qui était mort pour lui. Il avait compris, quelque part, son identification avec le Christ. Donc il y a eu tension. On va lire encore l'autre dia, si tu veux bien. Ok. Proclamation. Je le lis encore. Paul ici va aborder peut-être le fondement, ce qui va transparaître de l'Épître aux Galates. Et ça, c'est vraiment très important qu'on puisse se plonger dans ce texte. Ça va être repris notamment dans le chapitre 5, et je pense que Sébastien va en reparler, parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Nous qui sommes juifs d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés juste par la foi et non parce que nous avons accompli ce qu'ordonne la loi. Et car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Et puis on saute au verset 19. « Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Ça, c'est la grande proclamation de l'Évangile. La grande proclamation de l'Évangile. Je vais reciter de nouveau le grand réformateur Luther qui écrira ceci. « Quiconque estime qu'il peut être justifié devant Dieu par la loi rejette la grâce de Dieu, repousse loin de soi le sacrifice de Christ et renonce à être racheté par ce précieux trésor. » Un autre passage qui m'a interpellé, c'est le témoignage de la révélation de Luther, qui nous dit ceci. « Or moi qui, vivant comme un moine irréprochable, me sentais pécheur devant Dieu, avec la conscience la plus troublée, et ne pouvais troubler la paix pour ma satisfaction, jusqu'à ce qu'enfin, Dieu ayant pitié, et alors que je méditais jour et nuit, je remarquais l'enchaînement des mots, à savoir la justice de Dieu est révélée en lui, comme il est écrit, le juste vit de la foi. Alors je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci. Par l'Évangile est révélée la justice de Dieu, à savoir la justice passive, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi, selon ce qu'il est écrit. Je juste vis de la foi, il le répète encore une fois. Alors je me suis senti un homme né de nouveau, et entré, les portes grandes ouvertes, dans le paradis même. Alors ça c'est... Il y a Luther qui... Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on note ici, c'est que pour lui, il y a eu vraiment une révélation, un peu comme l'apôtre Paul, enfin Saul à l'époque, qui deviendra Paul plus tard. Une vraie révélation de la grâce de Dieu. Le juste vit de la foi. La position de l'apôtre Paul s'inscrit donc dans un vécu authentique, quelque part inattaquable. Sa métamorphose est spectaculaire. Un défenseur acharné de la loi, il va devenir un défenseur de la grâce. Il passe de la servitude de la loi à la liberté en Jésus-Christ. Et il dira même, « Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » On voit ça dans Philippiens 3, versets 7 à 9. Un cœur de Paul rempli de la grâce, de l'amour du Fils de Dieu, mort pour lui, c'est quelque chose qui l'a marqué, qui lui a permis de traverser probablement bien des turpitudes, des attaques en interne, des détracteurs, des gens qui cherchaient à le nuire, et puis bien sûr des attaques de l'extérieur, mais je ne sais pas lesquelles ont été les plus rudes pour lui. En tout cas, l'amour de Christ l'a porté, il avait compris la portée, toute la portée du message libérateur de Christ, et puis il l'avait accepté dans tout ce qu'elle impliquait. Il va même dire cette phrase qui est quand même très forte, « J'ai été crucifié avec le Christ ». Crucifié avec le Christ, et si je vis, ben c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, verset 20. Ainsi Dieu lui-même, tel qu'il s'est révélé en Jésus, était devenu le but suprême de son existence. Voilà, moi je me sens tout petit devant de telles révélations, hein, mais en tout cas, c'est des choses vers lesquelles nous devrions tendre, nous rendre compte que, voilà, le Seigneur a tout donné. Et puis c'est pour la liberté que nous sommes appelés. En conclusion, quelles applications spirituelles pourront nous en tenir ? La lettre de Paul aux Galates confirme le message, un des messages centraux, on va dire, des Écritures. Elle nous présente aussi des hommes, des femmes comme nous, avec leurs forces et puis aussi leurs faiblesses. Ça, c'est rien de nouveau. Notre monde a toujours besoin aussi de témoignages audacieux, rappelant les grands principes fondamentaux du message de Christ. Le salut est une grâce de Dieu obtenue en Jésus-Christ. Aucune œuvre, si belle soit-elle, ne peut prétendre mériter le salut. Je ne peux rien rajouter, rien changer. L'homme ne peut rien faire pour son salut. Il ne peut que l'accueillir dans son cœur, par la foi, comme un cadeau. Et c'est ce que je vous invite en tout cas à réaliser pour vous-même. Et puis je vous ai laissé ce texte. Ça, ce n'est pas un apôtre qui a écrit cela. Vous savez qui a écrit ici ? C'est Jésus-Christ. C'est la traduction parole vivante. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement, vraiment, des hommes libre. Amen. Seigneur, merci pour ce message plein de grâce, plein de vérités qui sont là, que nous avons à méditer, à ruminer. Seigneur, nous voulons vivre de cette grâce dans notre quotidien de vie. Seigneur, apprends-nous à progresser aussi, à garder ce témoignage en nous-mêmes et à être aussi, quelque part comme Paul, à garder l'audace de la foi et à la propager autour de nous, Seigneur. Mais je te prie vraiment pour chaque personne ici présente et merci pour ce que tu nous accordes dans notre quotidien. Nous avons besoin de toi, besoin de ton secours et que tu veux nous offrir par pure grâce. Amen. Petit chant, Thierry, ou...